Europe 1.
T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Clark Gable.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits!
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits! Jusqu'à la 13e génération de mon race!
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David, bonjour.
Bonjour. Bonjour
Stéphane.
Et celle qui est avec nous aujourd'hui, comme tous les lundis, notre historienne des mœurs, bonjour Virginie Giraud.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois dames qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point commun. Aujourd'hui...
Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà le printemps tout fleuri de lilas.
Et oui, chère Edith, le voilà enfin le printemps. En ce premier jour du printemps, on réunit trois dames qui chantent en toute saison, malgré leur nom. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par une chanteuse qui a pris le nom de celui que l'on célèbre aujourd'hui, la soprano devenue comédienne Yvonne Printemps, qui a fait la pluie et le beau temps sur les planches et sur le grand écran aussi. Puis après le printemps, voici venu l'été, un été chaud, un été hot. Je vous raconte celle qui a fait danser le monde entier en toute saison, la queen du disco, qu'on connaît sous le nom de Donna Summer. Et après les mortes, les vivantes, c'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui dressera vers 17h30 environ le portrait de notre troisième chanteuse du jour, une chanteuse plus hivernale.
Oui, et c'est vrai qu'elle hiberne pas mal ces dernières années et qu'on l'entend moins chanter, mais on continue de danser sur sa chanson qu'on connaît tous par cœur. Je vous raconte Ophélie Winter. Vous la connaissez, Stéphane, sa chanson?
Oui, Dieu m'a donné la foi.
Un foi, c'est ça, exactement. Mais oui, Dieu m'a donné la foi.
Brûle au fond de moi, j'ai dans le cœur, pense qu'il ne m'est pas.
Voilà, exactement.
J'aime bien parce que David Cassiopès connaît toutes les chansons par cœur.
Bah celle-ci en particulier.
Elle est très bonne.
On sent qu'il n'avait pas de nourrice, mais il avait un karaoké chez lui.
Non mais Ophélie Winter, quand moi j'avais 14 ans, mais c'était le maximum de la beauté des femmes du monde.
C'est ça, ah, c'était la génération Hit Machine.
Mais complètement, oui. Exactement. Je vais en parler tout à l'heure.
Eh bien, eux aussi, ils ont cette force qui guide leurs pas, même s'ils sont assis sur leur siège. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui nous parlez-vous ?
Eh bien, d'un homme, Fats Waller, un jazzman. Et lui, non seulement il chantait en toute saison, mais en 1926, il a dû chanter 3 jours et 3 nuits pour l'anniversaire d'un people. Le problème, c'est qu'on ne lui a pas vraiment demandé son avis, vous verrez.
Ah oui, c'était sous la menace.
Absolument.
Ah, voilà. Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. C'est David Cassel-Lopez. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est absolument pas une obsession personnelle. C'est quelque chose que jamais je ferai de ma vie, c'est sûr. C'est le saut à l'élastique.
Ah oui ?
Ouais. En tout cas, ça a une histoire. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, donc je vous dirai d'où ça vient.
Il y a un élastique qui vous attend sur le toit d'Europe 1.
Jamais. Jamais.
Okay. C'est ça.
Ou alors pour une petite somme d'argent.
En souvenir du pigeon, s'il vous plaît. Prendre quelque chose.
Lui voulait envoyer sauter.
Non, arrêtez.
Les origines, c'est dans toute fin d'émission. Juste avant, comme dirait l'autre.
Mes aïeux, quelle époque.
Oui, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte loin, très loin dans le temps. En l'an 9 de notre ère, on parle société avec vous, Virginie Giraud, et de cette période où l'empereur romain Auguste adopte une loi favorisant la natalité.
Exactement, je vais vous parler des lois natalistes de l'empereur Auguste et comment il a poussé les hommes et les femmes à faire plus d'enfants pour l'Empire romain en les encourageant avec les impôts.
Ah, il y a des politiques en Europe qui font ça en ce moment.
Oui, sauf que là, du côté d'Auguste, c'était plus répressif. Quoi. Si vous voulez payer moins d'impôts, il faut faire des enfants.
Très bien. Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40. Et dans 3 quarts d'heure, il paraît, mais faut-il croire toutes les rumeurs, il y aura un quiz sur fond de connaissances historiques où, cher Jean-Luc, vous allez m'opposer à Clémentine Portier-Kaltenbach, que pourtant j'adore.
Oui, Stéphane, mais comme c'est le 550e quiz aujourd'hui, j'ai comme un doute sur vos capacités mentales à présenter l'émission. Vous voulez que je présente Historiquement Vôtre aujourd'hui ?
Non, Jean-Luc, je voudrais pas que l'émission baisse en gamme. Laissez-moi faire, tout ira bien. La preuve, je vous raconte notre première dame du jour.
Europe 1, Historiquement Vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
À en croire les critiques de l'époque, elle était une soprano fascinante, une actrice envoûtante, une beauté captivante. Mais on l'a aussi décrite comme capricieuse, colérique et croqueuse d'hommes. Ce qui est certain, c'est qu'elle a fait la pluie et le beau temps sur toutes les scènes artistiques de Paris, mais pas seulement. Je vous raconte maintenant une grande dame de l'opérette qui chantait sans interruption et en toute saison, Yvonne Printemps. Yvonne ne fait pas que porter le doux nom de scène de printemps, elle le chante également à tue-tête dès qu'elle en a l'occasion. Dans cette chanson, elle évoque la saison des amours au moment où les fleurs sont en pleine floraison, les sentiments en pleine éclosion. Et Yvonne en connaît un rayon sur le sujet, elle qui a croqué la vie et les hommes avec délectation au printemps comme en hiver. Car elle a trop connu la pauvreté et le manque d'amour enfant pour ne pas désormais en profiter en toute saison. Yvonne, de son vrai nom Vignol, naît à Ermont-aux-Bonnes le 25 juillet 1894. Son père est caissier, sa mère sans emploi. Dans ce village, aux allures champêtres, à 15 km de Paris, la future Yvonne Printemps broie du noir et pour cause. Ses parents ne filent pas le parfait amour, loin de là. Son père est colérique, court les gueuses, comme on dit à l'époque. Sa femme lui pardonne ses nombreuses infidélités. Jusqu'au jour où il quitte définitivement le domicile conjugal. Dès lors, la vie d'Yvonne et de ses deux frères, de sa sœur et de sa mère, vire au cauchemar. Sans argent pour hélas pouvoir subvenir à leurs besoins, la mère d'Yvonne les couche souvent sans qu'ils aient quoi que ce soit dans le ventre. Mais Yvonne croit en sa bonne étoile. Cette petite fille espiègle, aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui lui mangent le visage, charme toutes celles et ceux qui la rencontrent. Indisciplinée à l'école, Yvonne excelle en revanche dans l'imitation. Vêtue des robes de sa mère et prenant des poses de mondaine, elle chante les succès de ce début de siècle et fascine ses amis qui assistent à ses mini-représentations. La première fois qu'Yvonne se produit officiellement, c'est le 24 décembre 1905, au sein de la petite troupe dont elle fait partie. Elle n'a que 11 ans et l'une des spectatrices est époustouflée non seulement par la voix, mais aussi par sa présence sur scène. C'est elle qui, 3 ans plus tard, lui présente un certain Paul-Louis Flers, célèbre dans le milieu artistique pour monter des revues. Et justement, il succombe lui aussi à l'aura de la petite banlieusarde et l'engage dans son nouveau spectacle à la Cigale. Yvonne fait ses débuts sur les planches dans Nu Cocotte, où elle campe un petit chaperon rouge quelque peu polisson. Chaque jour, la petite Yvonne, c'est son surnom d'alors, prend le train entre Ermont et Paris pour venir répéter son rôle inlassablement. Elle est déterminée à faire carrière et surtout s'extirper de son quotidien défavorisé. Elle gardera toute sa vie les 3 francs gagnés lors de sa première représentation, symbole du travail acharné qu'elle a dû fournir pour se faire une place dans le cercle très fermé des artistes de l'époque. Et quelle place ! Son mentor, certains diront son amant, Paul-Louis Flers, l'a fait jouer à l'Alcazar, aux Ambassadeurs et enfin aux Folies Bergères. C'est dans ce lieu mythique du music hall où se produiront plus tard Joséphine Baker, Jean Gabin, Charles Trenet ou encore Dalida que la petite Yvonne va devenir Yvonne Printemps. Ce surnom, elle le doit à ses collègues artistes qui partagent la scène avec elle. À leurs yeux et aux yeux de tous ceux qui la découvrent, Yvonne est une bouffée d'air frais, un vent de fraîcheur, un renouveau qui leur fait penser au printemps, cette saison qui succède au morne hiver. Dans les coulisses des Folies Bergères, il n'est pas rare d'entendre des artistes héler gentiment Yvonne. « Le printemps, c'est à toi !» ou encore « Le printemps, va changer ton costume !» Jour après jour, représentation après représentation, Yvonne endosse ce nouveau pseudonyme, Yvonne Printemps, éclos sur les planches. Elle sera appelée ainsi toute sa vie. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, sa mère, de son vrai nom Palmire, se voit affublée elle aussi d'un surnom. Par opposition à sa fille, elle devient Madame Hiver. De quoi jeter un froid entre la mère et la fille. Au contraire, ça leur réchauffe le cœur, car à présent Yvonne Printemps, du haut de ses 18 ans, mais ses proches à l'abri du besoin. Pour son rôle dans « Ah, les beaux nichons » avec Maurice Chevalier, Yvonne Printemps empoche 20 francs par représentation. Une fortune. Désormais, l'heure est venue pour elle de voler de ses propres ailes. Avec sa voix au perché, son corps frêle et son visage gracile, celle que l'on surnomme également le rossignol quitte le nid familial. Et alors qu'elle s'est posée dans une revue au Palais Royal, un homme va tenter de l'apprivoiser. Le célèbre metteur en scène Sacha Guitry la découvre grâce à sa femme qui lui a dit beaucoup de bien de cette nouvelle vedette, ce rossignol chantant. Erreur. L'épouse de Guitry fait entrer non pas l'oiseau, mais le loup dans la bergerie. Yvonne Printemps jette son dévolu sur lui et en fait son amant. 2 ans plus tard, Guitry quitte sa femme et dans la foulée se marie avec Yvonne. La comédienne Sarah Bernard sera l'une des témoins de ce mariage très glamour. La fée Printemps, comme certains surnomment Yvonne, poursuit alors son ascension. Comédie musicale, pièces de théâtre, revues, la soprano touche à tout et elle est ovationnée partout où elle passe. Sacha Guitry lui offre notamment une magnifique chanson. Je t'aime qu'il lui dédicace ainsi à mon inspiratrice Yvonne, à mon interprète Printemps. Aucun nuage ne semble assombrir l'amour entre Yvonne Printemps et Sacha Guitry. Il écrit même la comédie musicale Mozart qu'Yvonne campe lors d'une tournée qui passe par l'Angleterre, New York, Boston et Montréal notamment. Mais Yvonne le rossignol n'est pas un oisillon que l'on peut mettre en cage. Sa liberté lui est essentielle et elle va bientôt migrer vers d'autres contrées. Après 12 années de mariage, Yvonne Printemps, qui n'a jamais caché son aversion pour la fidélité, succombe en effet au charme d'un nouvel homme.
J'ai 2 amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux.
L'homme en question s'appelle Pierre Freinet et lui aussi foule les planches. Yvonne Printemps ne réfléchit plus. Les disputes avec son époux Guitry sont trop nombreuses. Son béguin pour Freinet trop évident. À 40 ans, elle décide de refaire sa vie avec son amant. Et un nouveau couple, nouvelle carrière. Désormais, Yvonne Printemps passe sur grand écran. Elle multiplie les rôles au cinéma. Elle partage l'affiche avec celui qu'elle aime désormais dans 8 films, dont les incontournables, 3 valses et La Dame aux Camélias. Au sujet de la prestation d'Yvonne Printemps dans ce film, le journaliste Paul Rebout, comme tous les autres critiques cinématographiques, ne tarit pas d'éloges. Dans ce rôle, j'ai vu Sarah Bernard et j'ai vu la Duce. Yvonne Printemps leur est supérieure. Yvonne ose tout et tout lui réussit. Mais la fée Printemps a aussi une part d'ombre. Diva, elle peut se montrer à son tour colérique, jalouse, possessive. Elle ne supporte pas que d'autres femmes partagent des scènes avec son Pierre Freinet. À la maison, les disputes sont régulières et pourtant le couple tient le coup. Leur amour pour le théâtre les rapproche quand ils se font la tête. Avec la pièce Conversation pièce, ils triomphent dans une tournée en Angleterre et aux États-Unis. Yvonne y chante dans un anglais phonétique. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, la soprano n'a pendant longtemps jamais travaillé sa voix pour atteindre un tel degré de perfection. Elle chante comme elle parle, sans technique, mais avec son cœur. Plus tard, elle prend la tête du théâtre de la Michaudière, une nouvelle corde à son arc pour cette passionnée de théâtre à la langue acérée. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un cimetière avec son ancien mari, Sacha Guitry, ce dernier lui aurait dit « Quand vous serez morte, on pourra dire enfin froide. » Et Yvonne lui aurait alors rétoqué « Et vous, enfin raide. » C'était cela, Yvonne Printemps. Comme les saisons, elle soufflait le chaud et le froid sur ceux qui l'entouraient.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Yvonne Printemps avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous sommes avec un homme de théâtre qui, par ses textes, l'a fait revivre sur scène. Bonjour, Éric-Emmanuel Schmitt.
Bonjour, Stéphane.
En ce premier jour de printemps, on commence avec le chant du rossignol. Les... Cher Éric-Emmanuel, que vous procure le son de cette voix, la voix d'Yvonne Printemps ?
Ah bah c'est une voix qui charme et puis c'est une voix qui comment dirais-je qui est longue, c'est-à-dire que elle a une espèce de souffle infini. Du coup, c'est pas une voix, c'est un boa constrictor, c'est quelque chose qui nous entoure.
Et elle nous enveloppe, elle nous envoûte aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'Yvonne Printemps, c'était un pseudonyme. Qu'est-ce qu'elle avait, selon vous, de printanier? En tout cas, elle avait tout d'une tornade quand elle passait dans la vie des hommes.
Oui, bah c'était la vivacité, c'était le dynamisme, c'était l'éveil du désir. D'ailleurs, c'était plus une femme désirante qu'une femme satisfaite, puisqu'elle courait quand même d'homme en homme. C'était un bourgeon, voilà. C'était un bourgeon qui cherchait à devenir une fleur et qui ne l'a pas souvent été.
Vous avez expliqué, Eric Emmanuel Schmitt, qu'en entamant l'écriture de votre pièce, The Guitrys, vous vous étiez demandé comment Sacha Guitry avait pu tomber amoureux d'une femme comme Yvonne Printemps. Est-ce que finalement, dans la fréquentation des deux et de cette femme, vous avez fini par comprendre comment ça s'était produit ?
Oui, parce que je pense que cette femme, c'était mille femmes à la fois. Elle était tellement pleine de vie qu'il était possible d'un instant à l'autre de changer de rôle avec elle. Elle passait de l'amoureux à la désespérée, à l'insouciante, elle griffait, elle caressait. Enfin, c'est donc pour un homme comme Guitry, qui regardait la vie comme un spectacle, elle était la femme la plus spectaculaire qui soit. Et en même temps, il était très très lucide, parce que vous avez passé la chanson « Plaisir d'amour ne dure qu'un instant, chagrin d'amour dure toute la vie ». Il a écrit une petite pièce pour elle, sur cette chanson, pour qu'elle puisse la chanter. C'est-à-dire qu'il l'aimait avec, je pense, de la nostalgie à l'avance. Il savait que ça ne durerait pas longtemps. Mais justement, il y trouvait de la force, de l'intensité, parce que voilà, c'est la vie même. C'est présent, c'est intense, mais ça passe.
Vous avez donc raconté, Eric Emmanuel, les amours tumultueuses d'Yvonne Printemps et Sacha Guitry dans votre pièce de théâtre. Vous regrettiez de ne pas les avoir applaudis sur les planches il y a 100 ans. Alors, vous les avez fait revivre, c'est bien ça ?
Oui, et puis je voulais écrire peut-être la pièce que Guitry n'a pas pu écrire, c'est-à-dire la pièce sur sa relation avec elle. Parce que ce sont deux êtres qui sont faits pour la scène. D'ailleurs, il n'y a que là vraiment qu'ils s'entendaient. Et je pensais qu'il fallait les remettre dans leur véritable écrin, c'est-à-dire sur scène.
Les disputes du couple Printemps-Guitry étaient fréquentes, je l'ai raconté. Elles vous ont inspiré. On écoute Claire Kem et Martin Lamotte, à qui vous aviez confié les rôles d'Yvonne Printemps et Sacha Guitry.
Nous faisons souvent, aussi souvent qu'avant.
Souvent pour toi, pas souvent pour moi.
Ah, pas Yvonne.
Oh quoi, je suis journalière, moi.
Qu'est-ce que ça veut dire, journalière? Tous les jours ou plusieurs fois par jour?
Oh, tu me fatigues.
Visiblement pas assez.
Mais comment vous définiriez leur amour? L'histoire qu'ils ont vécue avait tout pour passionner le public à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, c'était des stars, elles faisaient en permanence la une des journaux.
Oui, et puis star internationale, puisque les Américains les appelaient The Guitrys. Guitry disait, j'ai l'impression qu'on parle d'un couple d'acrobates. Et c'était là qu'était le problème. Je crois que les acrobaties n'étaient pas suffisantes, en tout cas dans le lit, pour Yvonne Printemps. Guitry, en fait, était très inquiet et il a fait exactement ce qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'il l'a fait suivre, il l'a enfermé, il l'a surveillée et à la limite, elle a voulu le tromper pour lui prouver qu'il avait raison d'être méfiant.
Mais parce que finalement, comme c'était l'homme des bons mots, il arrive toujours à s'en sortir par un bon mot et à être dans le beau rôle, Sacha Guitry. Et moi, j'avais pas cette perception de l'homme qui avait été jaloux, trompé et qui avait souffert. Et finalement, vous qui les connaissez par cœur et qui êtes un homme de théâtre, quelle place occupe-t-il dans votre panthéon personnel des artistes de théâtre?
Guitry, justement, c'est celui qui sait rire de ce qui nous ferait pleurer. Il vit une relation d'amour qui est forte, mais qui est désespérée avec cette Yvonne Printemps. Et la lucidité avec laquelle il se jette dans cette histoire montre un amour lucide de la vie qui me touche beaucoup. Et elle est le feu au milieu de tout ça. Je trouve que dans leur folie, il y a une forme de sagesse. C'est-à-dire que, voilà, ils comprennent que la vie, c'est une scène, c'est un théâtre sur lequel il faut brûler, se consumer, être intense. Et puis, un jour, ça passe.
On commémore dans quelques jours les 100 ans de la mort de Sarah Bernhardt, le premier monstre sacré témoin de mariage d'Yvonne Printemps et de Sacha Guitry. Durant les années folles, leur reconnaissance, leur rayonnement à l'étranger était pareil à celui de la divine ?
Non, parce que je pense que Sarah Bernhardt a inventé la star. Oui. Ça reste, d'ailleurs on en parle toujours aujourd'hui, alors qu'aucun de nous ne l'a vu, ne l'a entendu. Mais Printemps avait inventé la divette, c'est-à-dire pas la diva d'opéra, mais la diva d'opérette, donc la divette. Et elle avait ce qu'il fallait de séduction, d'aspect capricieux, imprévisible, qui faisait que chaque fois qu'elle arrivait quelque part, c'était un événement.
Mais est-ce que sur scène, elle avait la même emphase que celle d'une Sarah Bernhardt ? Parce que quand on entend les enregistrements de Sarah Bernhardt, ça nous paraît quasiment inaudible. Moi, je trouve aujourd'hui, c'est tellement grandiloquent. Est-ce qu'elle était quand même plus dans sa génération, dans son jeu ?
Oui, elle était très naturelle. C'est ça qui est frappant d'ailleurs quand on voit les films où elle est, ça sort tout à fait naturellement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand elle chante, ça sort aussi tout à fait naturellement, bien qu'elle ait pris quand même des cours de chant. Donc c'est un peu l'antithèse de Sarah Bernhardt. Je dirais qu'en fait, Sarah Bernhardt chantait en jouant, puisque c'était très très déclamé, tandis que Yvonne Printemps jouait en chantant.
Ah, oui.
Pour terminer, Eric Emmanuel, vous qui aimez traverser les époques en littérature, c'est le cas dans votre dernière saga, La traversée des temps. Si vous pouviez faire un saut dans le temps, quelle pièce de Sacha Guitry jouée par Yvonne Printemps vous iriez voir et pourquoi ?
Oh, j'irais voir la toute première qu'il a écrite pour lui, Jean de La Fontaine. C'était quand même un truc de fou, c'est-à-dire qu'il écrit une pièce hommage à Jean de La Fontaine, dans laquelle Charlotte Lysès, sa femme officielle, joue la femme de La Fontaine, dont La Fontaine se lasse, parce qu'il rencontre dans la mansarde à côté une jeune femme qui l'appelle le Rossignol et qui va devenir sa maîtresse. Et la pièce raconte exactement ce qui se passe dans la vie de Sacha Guitry.
C'est une mise en abîme de sa propre existence.
Exactement.
Merci Eric Emmanuel Schmitt. The Guitry's, le texte de votre pièce, est disponible aux éditions Albin Michel, tout comme Soleil sombre, le troisième tome de votre saga, La traversée des temps. Là, on est à quelle période ? Vous plongez le lecteur dans quelle période maintenant ?
Eh bien, dans Soleil sombre, on est en 1650 avant Jésus-Christ, à Memphis, la capitale des deux Égyptes.
On vous retrouve donc en librairie. Merci beaucoup, Eric Emmanuel Schmitt.
Merci.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Exactement, et aujourd'hui j'ai un indice musical un peu particulier parce que je vais élever le niveau. Je vous propose un indice dyslexique, c'est-à-dire qu'il va falloir changer une lettre pour comprendre. Écoutez plutôt.
Montaigne et la Boétie.
Quel voilà. Souci, donc, Montaigne et la Boétie.
Donc on va pas parler de la Boétie, on va parler de
Montaigne.
Non.
De
un indice dyslexique.
Il faut changer une lettre à la Boétie. Voilà.
On va parler de la B aussi.
La B aussi.
Oui,
on va aller le trouver, ça, Stéphane. Vous êtes. Oui, en effet, on monte le niveau, là, on va pas pouvoir suivre. Hein.
Mais faites-vous confiance, moi je suis sûr que vous pouvez suivre.
Je ne suis pas sûr que c'était pas ironique. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez la folle histoire du jazzman Fats Waller, star de son état, contraint et forcé pourtant de chanter à l'anniversaire d'un célèbre gangster.
Oui, c'est quand même une drôle d'histoire. Alors ça se passe dans les années 20. Le jazzman Fats Waller est né en 1904 à New York. Et à la vingtaine, il est déjà un musicien réputé, si bien qu'en 1926, on lui propose une série de concerts à Chicago. Alors il s'installe à l'hôtel Sherman pour quelque temps, car le restaurant de l'hôtel, le College Inn, est devenu l'un des principaux lieux de jazz de la ville. Et là, on a cours de tout Chicago pour venir l'entendre. C'est un surdoué. Il joue du piano, du violon, de l'orgue, mais il n'est pas simplement instrumentiste, il est aussi auteur et interprète de ses chansons. Il va en composer plus de 400. Et comme c'était un homme très généreux, quand il rencontrait un artiste, il lui dit bah, « Tiens, elle te plaît cette chanson, bah, elle est à toi ». Alors il donnait ses chansons à d'autres artistes qui finiront d'ailleurs par les revendiquer comme les leurs et toucheront les droits d'auteur à la place de Fats Waller. Oui, c'était vraiment un artiste munificent. Et l'une de ses chansons les plus connues s'intitule « Honeysuckle Rose ». Ah, c'est très joyeux, hein, ça, même malgré le petit coup d'œil de l'enregistrement. Et alors un soir, alors qu'il quitte l'hôtel Sherman, un homme s'approche de lui et lui pointe un pistolet dans le ventre. L'homme n'est pas seul, il y a deux ou trois autres acolytes qui l'accompagnent. Alors, sous la menace de son arme, l'homme oblige Fats Waller à s'embarquer à l'arrière d'une limousine. La voiture roule dans le quartier de East Cicero à Chicago et on arrive enfin dans ce qui semble être un club privé. Et quand il y pénètre, surprise, une foule nombreuse lui fait un accueil triomphal. Ses chaperons patibulaires le conduisent jusqu'au piano Manu Militari et lui dit « Maintenant, vas-y, tu joues ». À la fin de la première chanson, il n'a toujours aucune idée de ce qu'il fait là, ni de la raison pour laquelle on l'a kidnappé. Et il scrute la foule présente et il remarque dans la pénombre un homme qui l'applaudit à tout rompre. Et là, il reconnaît Al Capone en personne. Et oui, on est, je le disais à l'instant, en 1926, Al Capone a 27 ans. Il n'est pas encore l'ennemi public numéro un qu'il deviendra après le massacre de la Saint-Valentin, ça c'est 1929, mais enfin, il est déjà un gangster important et redouté. Et sachant qu'il est un fan de jazz inconditionnel et de Fats Waller en particulier, comme il se trouve à Chicago, ben, ses hommes de main se sont dit, ben, tiens, pour la nif du patron, on va lui offrir sur un plateau son jazzman préféré. Donc, Fats Waller là, a raconté ça. C'est son fils, en fait, qui a raconté ça des années plus tard. Et son fils a raconté qu'il aurait passé 3 jours et 3 nuits sans discontinuer à jouer pour Al Capone, prenant des pauses uniquement pour dormir un peu sur son banc de piano. Il était payé $100 par chanson, ce qui à l'époque est une somme absolument colossale, et il est alimenté quasiment en intraveineuse au champagne et buffé à volonté. Au moment de partir, Waller a été remis dans la limousine, ramené à son hôtel Sherman, plus riche de plusieurs milliers de dollars. Alors, cette histoire a été... Elle est très belle, presque trop belle pour être vraie, mais elle est quand même racontée par son fils, donc ce qui la rend plutôt crédible. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y avait une très grande porosité entre le milieu du jazz et celui des truands. Les jazzmen Milt Hinton et Lionel Hampton ont chacun eu un oncle qui a bossé pour Al Capone dans les quartiers sud de Chicago. Et puis, il y a aussi une autre histoire assez proche qui crédibilise celle-ci. On sait que Al Capone a demandé un jour au clarinettiste Johnny Dodds de lui jouer un air en particulier. Et Johnny Dodds ne connaissait pas l'air. Alors, Al Capone lui a donné la partition. Il lui a donné la moitié d'un billet de $100. Il lui a dit, écoute, quand tu sauras le morceau en entier, je te donnerai l'autre partie du billet. Enfin, on sait que Capone aurait envoyé des gardes du corps pour accompagner le pianiste de jazz Earl Hines dans son road trip. Ça a donné lieu à un film, cette histoire-là. Donc, vous voyez, il y a tout ça, cette porosité entre les deux milieux rend l'histoire assez crédible.
Il aurait pu simplement lui faire un contrat et lui demander.
Non, parce que ces hommes de main, les gorilles d'Al Capone, ont voulu lui faire une surprise. Écoutez, c'est normal, on veut faire une surprise comme
oui,
ça.
Pour faire plaisir.
Aux gens qu'on aime, ça fait toujours plaisir. Alors, surtout que vous vous souvenez que j'avais raconté ici même comment Al Capone s'était mis à la mandoline quand il était en prison à Alcatraz. Il avait créé un groupe qui s'appelait les Rock Islanders, les insulaires du rocher, puisque The Rock, c'était le surnom d'Alcatraz. Et dans une lettre à son fils, il se vantait de connaître par cœur 500 chansons et il en a même composé. Et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que parvenir lui-même à jouer de la musique et recevoir Fats Waller, qu'il admirait dans son club préféré, dut être pour lui une sacrée victoire, car on le sait peu, mais Al Capone était quasiment sourd. Hein. Alors, cela dit, en conclusion, on ne m'ôtera pas de l'idée qu'avoir sous la main un Fats Waller, pour moi, un Stéphane Bern pour nous, hein, Jean-Luc, hein, qui pourra, le jour venu, nous chanter « Joyeux anniversaire ».
Surtout que c'est le vôtre
même
aujourd'hui.
Même faux, surtout que c'est le mien. Alors j'aimerais bien un petit « Joyeux anniversaire hein, », ça vaut Fats Waller et Al Capone. Hein, vous croyez
joyeux
pas
anniversaire.
Ah, c'est miracle.
Joyeux anniversaire.
Miracle, il chante juste pour mon anniversaire. Oh, je suis touchée, j'en pleurerai.
Clémentine. Joyeux anniversaire.
Eh ouais. Et ouais, messieurs, je viens avec le printemps, comme Yvonne du même nom.
Oui. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien, parce que c'est Jean-Luc Lemoine qui prend la main pour Born to be Alive.
Et c'est peut-être dans ces moments-là que vous êtes le meilleur, Stéphane. Hein ? Allez-vous l'être dans le quiz historique du jour ? Rien n'est moins sûr. Face à vous, un puissant fond de culture historique, la redoutable Clémentine Portier-Kaltenbach. Allez, jouons. On commence avec vous, Stéphane. Bon, je vais vous apprendre quelque chose. Les Béotiens sont les habitants de la Béotie. La Béotie, c'était une province de l'ancienne Grèce. Aujourd'hui, c'est un district régional de la Grèce centrale. Eh bien, les Béotiens avaient un lance-flamme. Vrai ou faux ?
Bah écoutez, Stéphane, le feu grégeois, c'est bien une forme de lance-flamme. Hein ?
Alors, d'après vous, est-ce que c'est crédible, cette affirmation ?
Je vais dire oui.
Vous dites oui ? Vous êtes sûr ?
Non, mais on n'est jamais sûr.
On n'est jamais sûr, mais vous dites oui, et on vérifie.
Vous avez gagné !
Bravo, Stéphane. C'est vrai. Et ce, pendant la guerre du Péloponnèse, en -431 avant Jésus-Christ. C'était un tube de bois, avec un soufflet à l'arrière, et devant, on trouvait un tuyau recourbé qui pénétrait dans un chaudron. Les flammes qui en sortaient pouvaient incendier des fortifications en bois. On s'en est servi pour incendier les murs de Délion, une ville à côté de la baie aussi. Et je cite mes sources, Thucydide, un historien athénien de cette époque. Question pour vous, Clémentine. Une question sur le Titanic.
Ah.
Le film est revenu au cinéma, vous le savez, et ben le bateau revient aussi dans le quiz. Dans les deux cas, un naufrage. Il n'y a eu qu'une voiture autorisée à embarquer à bord du Titanic. Vous le saviez ?
Non.
Bah, c'est une affirmation. Mais quel modèle de voiture ? La Renault Coupé de Ville, une Bugatti Type 2 ou une Rocher Schneider avec transmission de cadran ?
Eh bien, je pense que c'était une Rocher Schneider avec transmission de cadran.
Ah, c'est fort ça. Vous connaissez
la
réponse.
Sur le Titanic.
C'est ça, exactement. Vous y connaissez un petit peu en voiture ?
Ah bah très très bien.
On va vérifier ça tout de suite.
Vous avez
perdu. Je me suis trompé de modèle.
Eh oui, c'était la Renault Coupé de Ville.
On la voit... mais oui, c'est vrai, bien sûr.
On la voit dans le film, elle appartenait à William Carter qui a réussi à s'en sortir ainsi qu'à sa femme et ses enfants.
Ah oui,
la voiture ça n'est pas sortie, rassurez-moi.
Elle n'était pas énormément amphibie. Donc, on a eu quelques soucis. Mais après, ils ont divorcé, William Carter et sa femme, parce que sa femme a dit qu'il était souvent ivre et infidèle. Mmh. Voilà, on peut survivre à un naufrage, mais pas à ça. Une question pour Stéphane, qui peut emporter ce quiz dès à présent. Il n'y avait pas que des voitures à bord du Titanic.
Non, ça comment ?
Il y avait aussi... Il y avait aussi un tableau.
Ah oui.
Ah, un tableau.
Oui.
Le plus connu, c'est La Circassienne de Mary-Joseph Blondel, peinte en 1814. Que s'est-il passé ? Le tableau a coulé, mais son propriétaire, non. Ou le propriétaire, oui, mais le tableau, non.
Je serais tenté de dire que on a sauvé le tableau, mais pas le... on a pas sauvé le propriétaire.
On a sauvé le tableau, on vérifie.
Vous avez perdu.
Le tableau a coulé, mais pas le propriétaire.
Oh, non, c'est dommage.
Ouais, non, c'était un Suédois avec un nom imprononçable. Il s'appelait Moritz Håkan Björnström Stefansson. Il a demandé 100 000 dollars de dédommagement.
Ah oui ?
Ouais. Est-ce qu'il a eu son argent ? Eh bien, ça aussi, ça fera l'objet d'une future question. Une question pour vous, Clémentine. C'est un Français égyptologue au CNRS, Alain Zivi, qui découvre en 1996 la tombe de Maya datant du 14e siècle avant notre ère. Maya, c'était la nourrice royale de Toutankhamon. Dans sa tombe, on a découvert au milieu de plein de chats momifiés quelque chose. De quoi s'agit-il ? On a découvert un lion momifié, des servantes momifiées ou un double album CD d'Ariel Dombal.
C'est marrant de trouver ça dans un...
Moi j'aurais pensé des abeilles.
Lion momifié ou des servantes momifiées ?
Ou un double CD d'Ariel Dombal.
Des servantes momifiées. Bah, c'est plus utile dans l'au-delà d'avoir des servantes qu'un lion. Hein.
Ah, oui.
Oui, alors des servantes, non. Parce que si c'est des servantes, ça veut dire que c'était des vieilles servantes.
Mais non, pourquoi elle a tué des jeunes ?
Non, alors on n'a pas tué des jeunes pour les momifier, pour accompagner tout en camon.
C'était quand même la nourrice royale.
Vous, vous auriez fait un pharaon carrément cruel. Hein. Non, moi je veux dire, un lion me paraît plus raisonnable.
Oui, c'est vrai que c'est très raisonnable.
C'est vrai.
On parle là-dessus ?
Oui.
Allez.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. C'est un lion momifié, animal sacré, élevé et enterré dans la vallée du Nil. Il a été retrouvé sous la forme d'un squelette, mais il était auparavant momifié. Quoi qu'il en soit, c'est la preuve qu'il fut à cette époque considéré comme sacré.
Oui, mais j'attire quand même l'attention des auditeurs d'Europe 1 sur la façon dont Stéphane Bern, s'il avait été tout en camon, aurait fait exécuter un majordome pour être accompagné dans l'au-delà. Hein, pourquoi vous...
De toute façon, dans son contrat, là, ouais. Europe 1, il est prévu que s'il arrive quelque chose, on est momifié avec lui. Hein.
on se jette dans sa tombe.
C'est ça.
Bah, vous savez, j'ai vu des crémations, par exemple, en Inde ou au Népal, où l'épouse, quand on brûle le corps de son mari, elle se jette sur le bûcher.
Elle se jette vraiment ou on la pousse vraiment. Un petit peu?
Non, elle se jette. Elle est volontaire.
Voilà. Moi je ferais
ça.
Si vous
avec votre mari?
Non, je le dis tout de suite.
Elle rajouterait une bûche. Allez, une question pour vous départager. Avril 1944, avant le débarquement, il y a eu des répètes. On a appelé ça l'opération Tigre. Concrètement, les Américains et les Britanniques ont organisé un débarquement au sud-ouest de l'Angleterre pour de faux, dans le plus grand secret, avec comme défi, coordonner 30 000 soldats. Voici la question. Pendant ces répétitions, il y a eu des morts. Mais combien de morts? 6, 46 ou 946?
6.
On va être joueur aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un gagnant, donc que quelqu'un choisisse autre chose.
46 alors.
D'accord. Eh bien, aujourd'hui, il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant, c'était 946.
Quoi? Il y a eu 946 morts.
C'est
malheureusement,
pas vrai.
Ouais.
Oh non, c'est triste.
Les soldats, pendant cette répétition, ont été attaqués par des vedettes allemandes équipées de lance-torpilles. Beaucoup de soldats ne savaient pas se servir correctement de leur gilet de sauvetage. Ils se sont noyés avec, dans leur paquetage, des plans secrets. Il a fallu retrouver et repêcher tous les noyés pour récupérer tous les documents avant de lancer l'opération Overlord.
Eh ben, chapeau, dites donc, c'est tout ce que vous aviez en magasin pour mon anniversaire? Ben moi... Ah ouais, je m'en vais. Hein.
Écoutez, on joue pour
en
vous.
En plus,
là.
J'ai un an de plus. C'est comme si c'était pas déjà assez triste comme ça. Allez, adios.
Et historiquement, votre continue avec nos dames du jour qui chantent en toute saison, malgré leur nom.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle fut une chanteuse star, une diva qui a caracolé en tête des charts et continue encore aujourd'hui à faire danser le monde entier, été comme hiver. Je vous raconte maintenant celle qui a été unanimement reconnue comme la reine du disco, la Queen Donna Summer. Nous sommes en avril 1979. À la surprise générale, Donna Summer délaisse un temps les paillettes du disco et étonne tout le monde avec ce nouveau single « Hot Stuff » aux influences rock. Comme un pied de nez à ses détracteurs qui ne la voyaient que comme une poupée de strass, elle prouve avec ce tube qu'elle est capable de tout chanter dans tous les styles. La chanson se classe bientôt numéro 1 des ventes dans de nombreux pays et certifiée disque de platine aux États-Unis, avec plus de 500 000 exemplaires vendus. L'été suivant, le monde danse sur cette chanson. Donna Summer, été en anglais donc, n'a jamais aussi bien porté son nom. D'ailleurs, quelle est l'histoire de ce pseudonyme estival ? Une chose est certaine, il ne lui vient pas de son père. Donna Summer naît sous le nom de la Donna Adrienne Gaines. Ce nom, elle ne l'a pas choisi non plus en référence à sa période de naissance, puisque la future chanteuse voit le jour le 31 décembre 1948 par un hiver glacial. La Donna Adrienne Gaines garde donc son nom initial pendant 26 ans. Ce n'est qu'en 1974 qu'elle devient Donna Summer. Elle est alors mariée à un acteur autrichien répondant au très germanique nom de Helmut Sommer lorsque Donna Summer donc postule à une annonce qui recherche une choriste. La chanteuse fait la connaissance des producteurs Pete Bellotte et Giorgio Moroder qui tombent sous son charme et sa voix, mais pas de son nom. Ils en sont persuadés. Pour percer sur le marché américain, il faut un pseudo qui parle aux citoyens du pays. Donna Summer devient alors Donna Summer. La chanteuse sort plusieurs singles, mais sa carrière décolle véritablement en 1975 avec son titre « Love to Love You Baby ». Une ballade osée où elle susurre pendant 17 longues minutes des paroles érotiques qui laissent, il faut bien le dire, peu de place à l'imagination. Si beaucoup de radios mettent plusieurs semaines avant de le diffuser, le single envahit, lui, les dance floors et notamment les discothèques gays. La révolution musicale est en marche, l'ère du disco est sonnée, ne serait-ce qu'aux États-Unis, elle vend en à peine un mois plus de 1 million de copies. Donna Summer prend pourtant un risque avec cette chanson. Elle est aux antipodes des principes éducatifs qu'elle a reçus et elle pourrait se brouiller avec une partie de sa famille. En effet, quand elle voit le jour à Boston, son père est boucher et sa mère institutrice. Elle grandit dans une fratrie de 7 enfants, bercée par des valeurs chrétiennes. Mais dans un quartier majoritairement habité par des familles blanches, celle qui deviendra Donna est rapidement confrontée au racisme et elle ressent le besoin de s'extirper de ce carcan. Alors elle chante, d'abord à l'église fréquentée par la famille, puis dans des groupes de rock multiraciaux qui se produisent à Boston et parfois à New York. Elle n'a pas 20 ans quand elle prend une décision qui va changer sa vie. On lui propose d'intégrer des comédies musicales de l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne plus précisément. Chanter, jouer la comédie, être payée pour se produire devant un public, elle en rêve depuis toute petite. Elle s'envole alors pour l'Europe et pendant plusieurs années, elle foule les planches dans des spectacles comme Haar, l'adaptation allemande du succès Hair. C'est là qu'elle rencontre celui qui devient donc son premier mari, Helmut Sommer. De leur union naît Natalia Pia Melanie, plus connue sous le nom de Mimi. Le couple divorce en 1976. Donna, devenue Sommer pour le monde entier, refait sa vie en 1980 et donne naissance à 2 autres filles, Amanda et Brooklyn. Mais c'est sa carrière que l'histoire retient. Donna Sommer multiplie les tubes dans les années 70. Chaque année, elle offre au public une pépite musicale. Could It Be Magic, Last Dance, Hot Stuff on the Radio. Et son succès ne se vérifie pas seulement au pays de l'oncle Sam. Il est mondial. En France, Donna Summer fait un raz-de-marée. Les Français raffolent de son duo avec la star planétaire Barbara Streisand et ils ne s'y trompent pas. La star rafle de nombreuses récompenses. Artiste disco de l'année, meilleure performance vocale féminine, R&B. Ça sortait pas. Il y a eu un rejet. La star rafle de nombreuses récompenses. Artiste disco de l'année, meilleure performance vocale féminine R&B, Oscar de la meilleure chanson de film pour Last Dance. So let's dance. La queen du disco jubile. Rien ni personne ne semble en mesure de la détrôner. Et pourtant, le début des années 80 marque un virage dans sa carrière. Le disco se ringardise, le rock et la pop débarquent sur les ondes radio et dans ces nouveaux mini-films musicaux qu'on appelle clips vidéo. Donna Summer cède peu à peu sa place à Michael Jackson, Cyndi Lauper, Eurythmics ou encore Whitney Houston. Elle n'est plus tout à fait en odeur de sainteté, alors que paradoxalement, Donna Summer ne s'est jamais sentie aussi habitée par la religion. Sa foi évangélique semble prendre le pas sur sa carrière. On lui reprochera même pendant longtemps des propos homophobes qu'elle aurait tenus lors d'une interview. L'épidémie de sida dans les années 80 serait, selon elle, une punition divine contre les homosexuels. Quand on se souvient que c'est grâce à cette même communauté qu'elle a notamment pu percer dans l'industrie musicale, la pilule passe mal auprès des militants LGBT de l'époque. Donna Summer poursuit cependant son chemin dans la musique, continue à se produire et à sortir des albums au succès varié. Mais en 2011, les médecins lui détectent un cancer du poumon. La chanteuse soutient que le déclenchement de cette maladie est lié aux attaques du World Trade Center en 2001, puisqu'elle était à New York ce sanglant 11 septembre. La chanteuse livre son dernier souffle le 17 mai 2012 à Key West au sud de la Floride. Donna aura donc enfin été en phase avec son pseudonyme Summer. Elle a fini ses jours là où le soleil brille toute l'année et où l'été, lui, ne meurt jamais. Pour continuer à parler de Donna Summer, nous avons le plaisir d'accueillir un musicien qui la connaît bien. Bonjour, Belkacem Meziane.
Bonjour.
Belkacem Meziane, vous racontez l'histoire du disco à travers des titres phares dans un livre, Night Fever, 100 Hits. 100 titres.
100 hits.
100 hits.
100
hits. J'avais envie de le dire en anglais.
Dites-le en anglais.
Tout d'un coup, j'étais lancé.
Dites-le en anglais.
J'avais envie de dire 100 hits qui ont fait le disco. Quelles sont pour vous les principales caractéristiques du disco en termes de musique d'abord?
C'est très, très, très large. Enfin, il y a un principe important, c'est vraiment le beat et le tempo.
Au-delà de ce.
Au-delà de ce beat fédérateur, vous expliquez dans votre livre que le disco naît des victoires idéologiques en termes de libération sexuelle, d'antiracisme, de revendications communautaires et de féminisme. Est-ce que finalement le disco, c'est la première musique qui met tout le monde sur un pied d'égalité ?
On va dire oui, pour être bref, mais il y a d'autres musiques qui sont très fédératrices avant, le rock and roll et le rhythm and blues, qui sont deux musiques dans les années 50 qui ont permis de rapprocher déjà les communautés blanches et noires aux États-Unis, ce qui était très très difficile puisqu'on était dans une période de lutte pour les droits civiques. Et les prémices étaient là, mais c'est vrai que le disco a permis encore plus d'ouvrir, et c'est vraiment pour moi la résultante de tout ce qui s'est passé dans les années 60 en termes de combat, mais puis au niveau mondial il y a une libération, mais aux États-Unis il y a vraiment ce qu'on appelle la génération Woodstock, les beatniks, la contre-culture, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais vraiment Woodstock marque une ouverture énorme qui va profiter bien sûr à toute cette génération qui va vivre le disco.
Et pour vous, Belkacem Meziam, la couronne de reine du disco revient, dites-vous, pour l'éternité à Donna Summer. En quoi, selon vous, elle est la plus grande représentante du disco ?
Déjà parce qu'elle a connu une carrière grâce au disco, principalement grâce au disco. Si on mentionne Diana Ross, elle a 10 ans de travail chez Motown, justement, un label de Détroit. Elle fait énormément de soul music. Elle était une star avant le disco. Il y a d'autres femmes comme Gloria Gaynor qui ont eu quelques hits, qui peuvent prétendre au titre de reine du disco, pardon, mais qui n'ont pas le côté sexy, le côté glamour, le côté star. Donna Summer est une belle femme qui va gagner aussi son titre de reine par ce biais-là, par le fait que... Et puis, c'est aussi une dame qui a travaillé en Europe, et le disco a énormément évolué aussi en Europe, particulièrement en Allemagne, où elle va travailler avec Giorgio Moroder. Ensuite, la reine, c'est parce que, voilà, elle incarne, pour moi, comme Beyoncé dans le R&B, une espèce de totalité, d'intégralité de tous les points du disco.
Cette carrière en Europe sera prolifique pour Donna Summer, parce que vous écrivez dans votre livre que c'est notamment Giorgio Moroder, que vous citiez à l'instant, qui écrit la légende de la chanteuse. Comment est-ce qu'ils se rencontrent et qu'est-ce qui séduit le musicien italien chez Donna Summer ?
Si vous me permettez, juste un tout petit peu avant, Summer, c'est son nom, S-O-M-E-R.
Oui.
En fait, c'est une erreur. C'est-à-dire que quand ils ont imprimé les premiers singles, parce qu'elle a eu des singles en 71, je crois, en fait, c'est une erreur de typographe.
Ah oui, ouais, donc oui. Ils l'ont écrit donc, Summer comme l'été.
Exactement.
Mais en fait, c'est par erreur.
C'est ça, donc ça casse un petit peu le
mythe.
le mythe et puis le... Mais en tout cas, bon voilà, en tout cas, elle s'appelle Summer et elle rencontre Giorgio Moroder, puisque comme vous disiez, ouais. elle représente la version allemande de la comédie musicale Hair. Et quand elle se retrouve là-bas, elle continue à faire les chœurs pour d'autres productions, à être mannequin aussi, et donc... Donc c'est comme ça qu'il en rencontre dans des studios, et forcément une chanteuse noire qui vient de Boston, qui est vraiment une excellente chanteuse de gospel et de soul music déjà avant de faire du disco, je pense qu'en Allemagne à cette époque-là, en 72-73, il n'y en a pas énormément, et je pense que déjà Giorgio Moroder imaginait qu'il n'allait pas avoir la chance de retomber sur une personne comme ça aussi rapidement.
Jean-Luc ?
Vous expliquez également que le titre « I Feel Love » de Donna Summer est l'acte de naissance de l'électro-disco. Est-ce qu'on peut dire que chacun a contribué au succès de l'autre ?
Oui. Oui, bien sûr. Il y a celui-là et puis celui que vous avez passé tout à l'heure, « Chase », qui est tiré de la BO de la bande originale de Midnight Express, qui sont sortis quasiment en même temps, en 77. Et c'est vraiment... Bon, c'est une production aussi de Giorgio Moroder. Pour moi, c'est vraiment l'utilisation de tout ce qui se passait dans les musiques un petit peu plus... enfin, moins connues, on va dire, les musiques électroniques, ce qui se passait aussi beaucoup en Allemagne. Et ça restait dans des publics assez restreints. Là, vraiment, Giorgio Moroder, en y mettant justement ce beat disco, a popularisé des choses qui étaient écoutées et qui étaient jouées, même dans le rock progressif et dans énormément de musique. On avait de l'électronique. Lui, il a vraiment condensé tout ça et rendu ça... un petit peu plus populaire et puis généralisé. Donc c'est I Feel Love, Chase, et puis après on a en France nous aussi beaucoup de gens qui ont œuvré pour l'électro-disco, mais je pense que quand même celui-là peut être retenu comme le vrai acte de naissance.
Virginie ?
Aujourd'hui, la musique de Donna Summer continue à influencer les artistes actuels. Je pense notamment à Clara Luciani et sa chanson « C'est l'amour » qui reprend « I feel love oui. ». Donc il y a Clara Luciani, mais est-ce qu'il y a d'autres artistes qui ont été influencés par Donna Summer récemment ?
Moi, je trouve beaucoup plus de filiation entre Donna Summer et les chanteuses de R&B. Tout à l'heure, je parlais de Beyoncé. Dans les années 90, des chanteuses comme Brandy ou Toni Braxton, ou comme je vous dis, Beyoncé, pour moi, représentent un petit peu plus l'image de Donna Summer. Dans le disco actuel, des années 2000 à aujourd'hui, des femmes comme Kylie Minogue ont repris aussi énormément de codes du disco. Bien sûr, Clara Luciani a repris ça. Il y a Juliette Armanet qui a fait un sacré succès aussi avec une formule un peu disco. Il y a Madonna aussi qui a eu un moment où elle a été disco, où elle a repris ces codes-là. Après, particulièrement la voix et le côté sexy de Donna Summer, personnellement, je le trouve un petit peu plus dans le R&B que dans le disco.
Pour finir, puisque vous racontez dans votre livre 100 hits qui ont fait le disco, tous artistes confondus, quelle chanson se place tout en haut de votre panthéon disco ?
Excusez-moi, ça c'est la question super piège. Mais bon, il fallait statuer de toute façon. J'en ai pris un qui pour moi représente vraiment le démarrage du disco. C'est un morceau qui s'appelle The Love I Lost, d'un quintet vocal qui s'appelle Harold Melvin and the Blue Notes. Et c'est la première fois réellement qu'il y a un hit avec ce beat disco, avec ses BPM à 120, avec les violons.
Mais on va l'écouter alors. Et ben... Voilà, c'est efficace. Hein ouais, on est dans l'ambiance. Là. Merci beaucoup, Belkacem Mezian, d'être venu avec
nous. C'est moi qui vous remercie.
Sur cette reine du disco qui chantait en toute saison et continue de mettre du soleil dans nos oreilles. Je rappelle l'ouvrage que vous consacrez au disco, Night Fever, 100 hits qui ont fait le disco, aux éditions Le Mot et le Reste.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castelopez et Virginie Giraud, on réunit des dames qui chantent en toute saison, malgré leur nom. Après Yvonne Printemps et Donna Summer, vous nous racontez, Jean-Luc, Ophélie Winter.
On va donc évoquer aujourd'hui Ophélie Winter. Et bon, je vous laisse deviner quelle est la traduction française de son nom de famille. Un indice, il s'agit de la saison de la gastro-entérite, des gerçures et de la nuit à 16h30. Mais oublions ça, parce qu'Ophélie Winter... Bah avec elle, c'est tout le feel-good des années 90 que je vais vous faire revivre, le temps de ces 2h40 de portrait. Non, c'est pas vrai, elle a pas eu une carrière aussi longue que ça.
J'ai eu peur.
En 2 minutes 45, c'est torché. On aura même le temps de se prendre un café avant d'enchaîner la suite de l'émission. Mais surtout, on va avoir le temps d'écouter ça.
J'ai l'impression d'avoir 12 ans à nouveau, c'est très désagréable.
Ah ouais, mais ça fait du bien, non ? Hein ?
Je suis pas sûr.
Non.
Si, ça fait plaisir. Un de ses plus gros succès, si ce n'est le plus gros, et un classique de propagande religieuse. Hein ? Je vais vous dire, au moment de la sortie du single, j'étais à ça de me nourrir que d'hostie et d'accepter d'ablution par le cardinal Barbarin. C'est vous dire l'influence qu'Ophélie et son œuvre ont eue sur toute une génération. Alors, dance, pop, jean baggy, Mèche Peroxydée, Charlie et Lulu, K.O. et Star System, plongeons-nous dans la galaxie d'Offelai. Vous reconnaissez ça ?
Même pas.
Non ? Bah alors...
Attends, c'est le jingle du Hit Machine ?
Dance Machine ! C'était le générique de l'émission Dance Machine, le concert de dance géant en direct de Bercy, diffusé sur M6. On faisait des pogos sur du 17, ça sentait la sueur et les angels de Thierry Mugler. On était bien. Et c'est la reine Ophélie qui était aux commandes. Mais bon, avant d'être à la tête de la plus grande discothèque du monde, Ophélie a sorti la sienne de tête en février 1974 à Boulogne-Billancourt. C'est Catherine Feufeu, 9 mois après avoir reçu la petite graine de Léon Clercoper, qui expulse délicatement Ophélie sur notre belle planète Terre. Et oui,
j'adore l'image.
J'ai bien dit Feufeu et Clercoper. Ce sont des noms de famille.
Feufeu.
Ouais. Et c'est pas des meubles Ikea. Hein, c'est aussi pour ça qu'Ophélie a... opter pour Winter.
Oui, elle a eu raison.
Également parce que Winter, c'est le nom de scène de son père. Vous le connaissez peut-être, Stéphane. En effet, Léon est un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexander Winter, qui connaît son petit succès dans les années 60 et 70, rappelez-vous. On sent le petit accent quand même, hein. Ça vous rappelle quelque chose ?
Oui, bien sûr.
Bah, bien
petite
sûr,
fille aux yeux bleus, tu n'étais pour lui qu'un jeu.
Oui, je pense que ça ne passerait plus aujourd'hui.
Il y a beaucoup de chansons qui ne passeraient plus aujourd'hui. Donc là, c'était papa, et Catherine, dite Cathy, est une mannequin originaire de Normandie. Comme quoi, toujours croire en ses rêves, même si on habite le Havre. Et son rêve à Ophélie, c'est de devenir star. En 1992, elle croise la route des frères Nakash, un groupe de musiciens composé de 5 frères. Vous vous rappelez, frère Nakash ? Elle imagine. Alors donc, elle croise la route de 5 frères. Ce qui ressemble, je vous l'accorde, à un pitch de film porno avec Gang Bang en guise de finale, va se révéler être une collaboration artistique fructueuse et bien juteuse. Les frères produisent ses premiers singles comme... When I Got the Mood, dont je ne diffuserai pas d'extrait puisque ça a été un four et que personne ne s'en souvient. Mais ils coproduisent ensuite son premier album, No Society, coécrivent le tubesque Dieu m'a donné la foi, qui s'écoule à plus de 600 000 exemplaires. Et l'album suivant, Shame on You, qui sera certifié disque de platine. Ah, je le vois tendiner, David. Hein. Dans la cour du collège, on porte sa casquette à l'envers, on parle anglais grâce à Ophelai, entre deux expressions du type « cool Raoul »,« relax Max » ou « bel organe Stéphane ». Oui, je viens de l'inventer. Avec ce deuxième album, les ados ont aussi les hormones qui s'affolent avec le titre « Le feu qui m'attise », coproduit par les Cheminées Godin et l'amicale des Ramoneurs du Val-de-Marne. En parallèle, Ophélie se voit offrir par M6 la présentation d'une émission musicale hebdomadaire intitulée, vous l'avez dit tout à l'heure Virginie...
Le Dance Machine.
Non, le Hit Machine, ah, cette fois-ci.
Vous m'avez piégé.
Les deux, elle a fait
Shame
les deux.
Shame on you.
Eh ben oui, c'est ça. Grâce à cette opportunité, elle devient l'animatrice vedette de la chaîne et on lui confie plusieurs émissions, notamment Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street et le Ophélie Show. Vous vous en doutez, majoritairement des émissions littéraires et des débats politiques. Après la chanson et l'animation télé, Ophélie s'essaye au cinéma. En 1996, elle fait ses débuts dans le film « Homme-femme, mode d'emploi » de Claude Lelouch, face à Bernard Tapie et Fabrice Luchini. L'année suivante, elle obtient les rôles principaux dans deux films « Tout doit disparaître » de Philippe Mille et « Bouge » de Jérôme Cornuau. Et c'est assez prémonitoire, car c'est un peu ce qui se passe pour elle avec l'arrivée des années 2000. Elle bouge des radars de la fame, le succès disparaît. Telle une montre flic-flac et les jeux de cordes à sauter, Ophélie tombe en désuétude. Elle accumule des problèmes de santé, d'argent, et tente divers comebacks dans des émissions comme Popstar ou Danse avec les stars ou n'importe quel autre concept avec le mot star dedans. De toute façon, je vais vous dire, à partir des années 2000, tout tombe en désuétude. On a commencé à passer beaucoup trop de temps en ligne, à avoir accès à toute l'information tout le temps, et on a réalisé qu'on n'était pas l'espèce la plus finaude de la création. On était optimiste dans les années 90, naïf peut-être, mais c'est pourquoi on se souvient de cette décennie avec tendresse. Alors souvenons-nous d'Ophélie Winter avec tendresse, s'il vous plaît. Bon, attention, elle n'est pas morte, hein, loin de là. Et vu que les jeans baggy signent leur grand retour, tout est encore possible.
Oui, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et on embrasse Ophélie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos dames qui chantent en toute saison malgré leur nom pour retrouver deux chroniqueurs qui nous enchantent tout le temps, eux aussi. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un saut qui demande d'avoir le cœur bien accroché, les pieds aussi.
Et les pieds aussi, ouais, le saut à l'élastique.
Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque aujourd'hui, on parle société et mœurs avec vous, Virginie Giraud, et on remonte en l'an 9, au temps de la Rome antique, pour découvrir une loi faite pour inciter la naissance d'enfants telle que l'avait décidé l'empereur romain Auguste.
Je vous l'ai déjà dit mille fois, oubliez les péplums qui vous donnent une mauvaise image des Romains. Les Romains sont des gens austères, ils aiment la gravité, la sévérité. Mais bon, il est vrai que pendant la guerre civile, à peu près à l'époque de Jules César, les mœurs se sont un tantinet relâchées. Bon, déjà, les hommes n'avaient plus envie de se marier parce qu'ils trouvaient les femmes querelleuses, dépensières et incapables de se maîtriser. D'ailleurs, le poète Varron écrivait « Le défaut d'une femme, Il faut le supprimer ou le supporter. Qui le supprime rend sa femme plus agréable, qui le supporte s'améliore.
Bon, ça, c'est de la grande philosophie.
N'est-ce pas, hein, ça fait rêver. Et de leur côté, les femmes font tout pour échapper au mariage. Elles préfèrent les relations libres, avoir des amants et prendre des remèdes pour ne pas tomber enceinte. Et d'après les études démographiques, on remarque que le taux de natalité à Rome est effectivement anormalement bas au début de notre ère. Donc l'empereur Auguste, qui ne connaît pas encore les thèses de Darwin, mais qui sent bien qu'un peuple qui ne fait pas d'enfants est voué à sa disparition, va donc faire quelque chose.
Comment l'empereur a-t-il pu obliger les Romains et les Romaines à se marier pour faire des enfants ?
Eh bien, il va imaginer un système de récompenses et de pénalités fiscales, tout simplement.
C'est toujours efficace quand on touche aux bourses.
Je vous en prie, Jean-Luc. C'est vrai qu'Auguste fait passer une première loi en 18 avant Jésus-Christ. Elle prévoit que tous les célibataires, veufs ou divorcés entre 25 et 60 ans pour les hommes et entre 20 et 50 ans pour les femmes verraient leur droit à l'héritage réduit en faveur de l'État. Pas de mariage, pas d'héritage, ça aurait pu être le slogan de cette campagne politique. Mais Auguste remarque que ce n'est pas encore assez incitatif pour pousser les Romains à faire des enfants. Donc en 9 après Jésus-Christ, il promulgue la loi Papia Poppaea qui instaure le Ius Trium Liberorum, le droit des trois enfants en latin. Tous les citoyens qui ne sont pas parents d'au moins trois enfants ont des pénalités fiscales. Mais Auguste a bien compris que ce sont les femmes qui prennent les potions abortives parce qu'à Rome, une grossesse menée à son terme, c'est 5% de chance de mourir en couche. Donc il va créer un système de récompense spécifiquement pour les femmes.
C'est pas la fête des mères parce que c'est le gouvernement de Vichy qui va populariser cette fête.
Non, et puis de toute façon, aucune femme au monde n'aime les colliers de nouilles. Hein. Celles qui disent le contraire sont des menteuses.
Trop déçu.
Oui. On nous a menti toute notre enfance.
Elles vous ont menti, oui, je suis désolée de vous l'apprendre.
Oh là là.
Donc en tous les cas, Auguste va utiliser un autre système, c'est la loi. À Rome, les femmes sont considérées comme d'éternelles mineures. Elles dépendent juridiquement soit de leur père, soit de leur mari, soit de leur tuteur. Eh bien, Auguste va offrir l'indépendance juridique aux mères de trois enfants. Les femmes qui auront donné trois enfants à l'Empire seront émancipées. Elles pourront prendre seules leurs décisions et gérer leurs propres biens à l'égal des hommes.
Et les autres femmes, les esclaves par exemple, elles ont des récompenses ?
Oui, Auguste ne les oublie pas. Les esclaves qui ont donné cinq enfants à leurs propriétaires sont affranchis, c'est-à-dire libérés. Et les affranchis qui ont mis au monde quatre enfants sont considérés comme les égales des femmes nées libres. C'est donc à chaque fois une promotion sociale. C'est une vraie prime à l'enfantement pour toutes les femmes.
Est-ce qu'on peut voir ça comme des lois féministes ? Puisqu'elles libèrent les femmes de la tutelle masculine, en quelque sorte.
On pourrait voir ça comme ça, sauf qu'on ferait une grosse erreur d'analyse très anachronique, puisque les lois sur les trois enfants d'Auguste n'ont rien de féministe. Ce sont des lois natalistes dont le seul but est de servir la grandeur de Rome. Et tous les petits citoyens travailleront plus tard à la prospérité de l'Empire et permettront le développement de son économie et de nouvelles conquêtes. Auguste a juste appliqué le principe de la carotte et du bâton, récompense et punition. Et ce projet d'assainissement des mœurs s'inscrit dans un plus vaste projet de renforcement du prestige de Rome.
Merci Virginie, mes aïeux, quelle époque. Faire des enfants pour servir Rome. Vous nous raconterez comment Auguste a réformé l'Empire romain dans votre podcast Au cœur de l'histoire, n'est-ce pas ?
Oui, on croit souvent à tort que Jules César a été le premier empereur romain. C'est faux, c'est bien son petit-neveu Auguste qui a fait passer la République romaine vers un système impérial. Et je vous raconterai comment il a fait au cœur de l'histoire.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud, mais maintenant avec vous, David Castel-Lopez. On remonte et on descend très vite, puis on remonte, vu que vous nous racontez aujourd'hui, les origines du saut à l'élastique.
Il y a un truc en commun entre les Anglais et les Japonais, je trouve. C'est deux peuples qui croulent sous le poids des convenances. C'est des peuples qui ne sont pas libres d'un point de vue émotionnel et qui très souvent, d'après ce que j'ai pu observer, sont un peu crispés, un peu conformistes. Et donc, ils sont obligés de trouver des échappatoires. Les Japonais, ils produisent des films porno d'une imagination qui confine au dégueulasse, hein, je pense qu'il faut le dire. Et les Anglais, ils éclatent en performances exagérées, bruyantes, absurdes. Ils inventent le punk, ils inventent les Monty Python et ils inventent le saut à l'élastique moderne. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, le saut à l'élastique, c'est devenu tellement commun que la part de truc foufou est un petit peu perdue. Mais au début, c'était vraiment foufou et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il faut être honnête quand même et dire que le saut à l'élastique moderne a un ancêtre direct duquel il est très très largement inspiré. C'est la coutume inventée par les habitants d'un petit archipel du Pacifique qui s'appelle Vanuatu, juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. Coutume qui s'appelle le saut du gol. Le gol, c'est une tour de plusieurs mètres de haut construite en bois avec tout en haut une plateforme depuis laquelle de jeunes hommes plongent attachés aux pieds par une liane. Alors, contrairement au saut à l'élastique que les gens font uniquement pour le fun, le saut du gol, lui, il a une fonction rituelle. C'est à la fois un rite de passage, genre quand tu deviens un vrai gars, eh ben, tu le prouves en sautant. Et c'est aussi une façon de faire en sorte que les récoltes soient meilleures. Plus on saute de haut, plus les récoltes seront bonnes. Je ne sais pas si scientifiquement ça tient, en tout cas, c'est ce qu'ils croient. Et par ailleurs, c'est beaucoup plus effrayant que le saut à l'élastique qu'on connaît. Déjà parce que c'est pas un élastique, c'est une liane qui casse plus facilement. Et surtout parce qu'il ne saute pas au-dessus de l'eau, mais au-dessus de la terre ferme. Et avec, en plus, une liane la plus longue possible qui doit être pile poil à la bonne taille pour que le visage des sauteurs arrive à quelques centimètres du sol quand ils sautent.
Mais ça vous arrache pas les jambes tout ça ?
Non, j'ai vu des images, c'est filmé, ça a l'air vraiment très très... Vraiment, ils arrivent à ça, quoi. C'est-à-dire que si ça casse, c'est la mort. Dans les années 70, en Angleterre, il y a un groupe d'étudiants d'Oxford, donc des gens à la fois très éduqués, et issus aussi pour la plupart de très très bonnes familles, ces gens-là qui ont créé un club qu'ils ont appelé le Dangerous Sports Club, le club des sports dangereux. C'était une façon un peu adolescente peut-être de rejeter les conventions bourgeoises et peut-être aussi l'ennui d'une vie trop confortable et trop simple. Et au cœur de leur activité, il y avait le fait de faire des trucs acrobatiques, débiles et dangereux, exactement comme Jackass, si vous connaissez les Jackass, mais 20 ans plus tôt. Ils ont dévalé des pentes à la montagne, assis à un piano à queue sur lequel ils avaient mis des skis. Ils ont dévalé des rues dans des caddies, ce qui est des choses qu'on fait exactement Jackass après. Ils ont fait du skateboard à pamplune en se faisant courser par des taureaux. Et puis, un jour, un d'entre eux a entendu parler de la coutume du saut du gol et il s'est dit oh, « Mais si on faisait la même chose, juste pour rire, sans le côté rituel ?» Alors c'était quand même un groupe de gens très très bien formés. Donc dans le groupe, il y avait notamment des ingénieurs qui ont calculé ce que devait être la longueur et la résistance de l'élastique pour que ça marche. Dans un premier temps, ils se sont dit « On va peut-être tester le truc avec une grosse pierre ou un gros sac avant de le tester nous-mêmes. » Mais finalement, ils ont décidé que non, parce que c'était pas très viril déjà de faire ça. Et en plus, le but, c'était quand même que ce soit dangereux, donc il fallait qu'il y ait un risque. Et donc, le 1er avril 1979, à l'aube, le leader du groupe, qui s'appelait David Kirk, qui avait grandi dans une famille vraiment très très riche, avec 15 domestiques et des Rolls-Royce, David Kirk, il a sauté du tablier du pont de Clifton, à Bristol, en Angleterre, à 75 mètres de hauteur, habillé avec une queue de pie et un chapeau haut de forme. Quelques amis l'ont suivi et ils ont tous survécu. Ils ont été arrêtés par la police, mais ils ont survécu quand même. Ils l'ont refait plusieurs fois après. Et dans le sillage de tout ça, pendant très longtemps, presque 10 ans, le saut à l'élastique, c'est resté une pratique ultra rare. En gros, personne ne le faisait. Jusqu'à ce que, en 1987, un monsieur néo-zélandais qui s'appelait AJ Hackett, qui avait été inspiré par les sauts du Dangerous Sports Club, il a sauté à l'élastique depuis le premier étage de la Tour Eiffel de façon totalement illégale. Ça a été filmé, ça l'a rendu célèbre lui et ça a rendu le saut à l'élastique célèbre. Et dans la foulée, AJ, il a fondé en Nouvelle-Zélande la première entreprise commerciale de saut à l'élastique dans le monde. Depuis, il y a des millions de personnes qui ont sauté. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas très dangereux. Le risque d'accident mortel, c'est 1 sur 500 000. Donc voilà, en gros, ça a beau faire peur, c'est pas si dangereux, mais c'est pas ça qui va me convaincre d'aller le faire.
Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois secrétaires vraiment particuliers. Le philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau, qui a d'abord été, durant 8 ans, le secrétaire particulier d'une certaine Madame Dupin. Puis Daniel Cordier, qui fut le secrétaire particulier pendant la guerre du résistant Jean Moulin. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un secrétaire particulier plus vivant, secrétaire d'un personnage particulier lui aussi.
Oui, le pape Benoît XVI. Je vous raconte celui qui était son prélat, comme on dit jusqu'à sa mort récente. Georges Genwein, ça vous dit quelque chose ? On le surnommait le Georges Clooney du Vatican.
Ah, what else ? Bah rien. On a tout dit pour aujourd'hui. Passez une très bonne soirée sur Europe 1 et on se retrouve demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.